Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Vous avez 24 minutes dans une journée.
Tout savoir en 24 minutes.
Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie de Vincent Dessureau, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publiques de Québecor. Voici Tout savoir en 24 minutes.
Tout savoir en 24 minutes.
Bien, le Québec va se déconfiner un peu, vraiment un peu, à partir du 31 janvier. C'est ce que François Legault a annoncé aujourd'hui. Bon, les hospitalisations sont en baisse, mais très légèrement, ce qui permet donc...
Sont sur un plateau, là.
Ouais.
Tu sais, depuis quatre jours, ça monte un petit peu, ça baisse un petit peu, ça monte un petit peu, ça baisse un petit peu. Ça avait baissé, la semaine passée, ça a baissé deux jours de suite, c'est tout. Mais moi, c'est un plateau qui je comprends là, qu'on a touché pendant une journée 3400, mais sinon, là, c'est un plateau qui est au sommet de tout ce qu'on a connu depuis le début de la pandémie.
Ouais, c'est un niveau qui est insoutenable à long terme. Les prévisions, les projections de l'INSPQ montrent qu'on pourrait se retrouver d'ici une semaine ou deux là dans les 2500, mais le problème, c'est que c'est très peu précis. On dit ça part dans un sens ou
mais
dans
tu
l'autre.
Sais pourquoi?
Ben, parce qu'on n'a pas les cas.
On ne sait plus combien on a de cas. Puis on n'a pas le portrait de ce qui se passe dans les écoles. Encore complet.
Donc, on avance un peu
au bout de brouillard.
Ce qui amène M. Legault à avoir le mot un peu du jour, un mot typiquement québécois, mollo. Alors, un déconfinement mollo, je vais entendre le premier ministre là-dessus.
On a convenu avec la santé publique de vous annoncer aujourd'hui quelques petits assouplissements, mais l'idée, c'est d'y aller graduellement, prudemment, donc d'y aller tranquillement, comme on dit en québécois, là, faut y aller mollo. Donc, si vous aviez un mot à retenir aujourd'hui, c'est le mot mollo. Faut y aller mollo.
C'est retenu.
Bon, et
mais on y va quand même.
Ce que ça implique, c'est quand même des ouvertures qui vont faire plaisir aux gens. Le restaurant, 50% de leur capacité dès le 31 janvier. Ça permettra, par contre, des rassemblements limités, là, privés de 4 personnes ou 2 bulles familiales. Salle de cinéma, salle de spectacle, eux, devront attendre. D'ailleurs, peut-être qu'il a terminé avec le 31 janvier, là, également dans les maisons. Alors, on peut se réunir 4 personnes ou 2 bulles. Alors, ça, c'est la limite. Le 31 janvier aussi pourra recommencer le sport parascolaire et le sport civil, mais pour les mineurs, là, pour les moins de 18 ans. Alors, le sport civil...
Et sans compétition, sans tournoi, sans match.
Exactement. Donc, on peut faire de l'entraînement, on peut faire de l'activité physique, mais pas de match comme tel. Du moins, pas pour l'instant. La deuxième phase, c'est le 7 février, où là, on touchera la culture, les salles de cinéma, les salles de spectacle, les arénas, 50%, ou maximum 500. Alors, le Centre Bell, ce sera 500 personnes maximum, pour l'instant.
Mais là, je me suis demandé, c'est pas la question qui a été posée, je pense, par un journaliste, parce que, tu sais, le Centre Bell, on y allait par porte à un certain point, là. Quand il y avait des portes indépendantes, on traitait les sections comme étant des 500, ce qui faisait qu'au total, on arrivait à 5000.
C'est vrai, ça se peut très bien que ce soit ça. J'ai pas eu la précision, là. Ça n'a pas été abordé, je pense,
étonné,
dans le point de presse.
Sans joke, 500 dans le Centre Bell, c'est une farce, là.
Parce que j'avoue qu'on revient probablement à ce qu'on est là où on était.
Ouais, ça va être 500 par section.
D'ailleurs, c'est 1000 personnes à l'extérieur, donc à partir du 7 février. Quelques changements au niveau des CHSLD qui pourront être visités par 2 proches aidants par jour, tandis que 4 personnes par jour pourront visiter les résidents en RPA. Même François Legault a commencé en parlant de son fameux tunnel. On pense qu'il y a une écœurée généralisée sur le terme « la lumière au bout du tunnel », mais il est allé de front avec cette comparaison-là. Puis on l'a traversé, le tunnel. Vous n'avez peut-être pas rendu compte, mais selon M. Legault, on l'a traversé, je vous le fais entendre.
Bien, je pense qu'on peut dire aujourd'hui qu'on est sorti du tunnel. Par contre, le train de la santé est magané. Puis il est magané depuis plusieurs années.
Bon, là, on est sorti du tunnel, mais le train est magané.
Ça commence à faire beaucoup
de métaphores.
Beaucoup
là.
De métaphores. Là. Alors, expliquez là-dedans qu'on devra le renouveler, faire une refondation complète du système de santé, que ça passera par l'embauche de personnel, d'ailleurs inciter les jeunes à se diriger vers des carrières en santé, particulièrement pour les futurs infirmiers et infirmières, que là, il y aura de la demande pour des décennies à venir. Et les conditions se sont améliorées aussi, conditions salariales. Alors, en demandant aux jeunes de se diriger vers
mais,
ça.
Mais deux choses, là. Un, une réforme, le personnel, là, c'est pas une réforme en profondeur du système. Il faut embaucher du personnel, on le sait, là, c'est une donnée connue, mais c'est pas une réforme en profondeur. Deux, je sais pas, il y a un côté où je me dis, ah, bon, là, on a beaucoup de primes et des augmentations de salaire, pis ça, c'est correct, mais sinon, il me semble que dire ça, c'est rien dire. Il me semble que même à mon époque, à ton époque, tu sais, c'est allé étudier en santé, mais toi, j'ai jamais vu une fille qui s'en allait s'inscrire comme infirmière qui pensait pas avoir de travail. Il me semble, c'est pas le genre de secteur où t'as jamais
pensé. Mais là, tu peux dire, ça se peut que je gagne 120 000. Là.
Ouais. Non, le salaire a augmenté. Mais sinon.
C'est pas pareil.
Aller dans le secteur de la santé, il n'y a jamais de médecin, d'infirmière, d'infirmière auxiliaire. Jamais personne s'est inscrit dans le secteur de la santé en disant, je sais pas si je vais travailler, ouais. Là.
Peut-être. Un bon infirmier, une bonne infirmière. Mais écoute, je cogne à toutes les portes, personne me veut. C'est vrai
ça
que c'est
arrive pas
arrivé.
Pas, là. Fait que c'est pour ça que.
Mais les conditions, ça a amené des conditions quand favorables. Alors, on verra avec l'élimination du TSO, du travail supplémentaire obligatoire, qui semble un gros irritant. Et la dernière modification, c'est pour les activités dans les lieux de culte, là, où on passera à partir du 7 février à 50%, maximum 250.
Mais ça, c'est plus logique que c'est parce qu'il y avait la rumeur que ce soit en même temps que les restaurants. Et c'est beaucoup plus logique en même temps que les lieux de culte. Là, c'est le même genre de salle, à la limite, là, genre une salle de théâtre ou une église. Ou une... Mais tu sais... C'est plus logique que ça arrive la semaine où tu commences à avoir des rassemblements de plus grand nombre de personnes dans des espèces d'amphithéâtres que l'avoir eu en même temps que les restaurants. J'ai l'impression qu'il y a eu une correction du côté du gouvernement. On n'a pas voulu se faire accuser que, tu sais, que c'était plus, important. Ouais, c'était plus important d'aller écouter un prêche là, que d'aller écouter une pièce de théâtre ou un humoriste. Là.
D'ailleurs, jetons un coup d'œil au cas aujourd'hui, là, aux données. 85 décès. Alors, le bilan qui est encore très lourd au niveau des décès. Et, on glissait tantôt que les hospitalisations étaient en baisse très légèrement. C'est moins 21 aujourd'hui. 3278.
Ouais. Mais hier, c'était plus 16.
Alors là, ça fait deux jours qu'on a peu bougé. D'ailleurs, aux soins intensifs, c'est stable. 263 ouais. Personnes, 33 entrées, 33 sorties.
Faut se souvenir, c'est quoi? Parce que si on arrive à, mettons, moins 20 aujourd'hui, c'est comme 270 entrées puis 290 sorties. Mais tu dis, OK, il y a 200 quelques personnes qui sont sorties de l'hôpital, c'est très bien, là. Mais il n'est entré quasiment autant, 20 de moins, là, mais je dis, c'est quand même beaucoup de monde. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de gens, aujourd'hui, là, beaucoup de gens qui entrent à l'hôpital malades, là.
Oui, et sur les 293 sorties, il y en a 85 qui s'en allaient à la morgue, là.
Pas nécessairement tous. Il y en a qui n'étaient pas à l'hôpital.
À la maison, mais
un certain disons, nombre. T'as raison. Fait que c'est pour ça que je trouve qu'on a aujourd'hui, peut-être que M. Legault répondrait, j'y vais mollo. C'est pour ça qu'il va très, très mollo, peut-être. Mais on part un déconfinement avec le portrait le plus sombre qu'on n'a jamais eu dans le passé. Généralement, on faisait les déconfinements, mais les gens n'étaient pas vaccinés. Fait que c'est sûr que c'était différent. Mais on faisait les déconfinements quand on était dans une vraie baisse des hospitalisations, des décès. T'sais, quand on s'en...
Mais on serait peut-être rassuré à voir les cas. Si les cas sont baissés de 95%, ouais, on serait rassuré, mais ça, on
a plus de comptes. On a plus de décompte.
On pourra peut-être avoir un peu plus d'informations concernant les cas avec le nouveau site lancé aujourd'hui pour les autotests. Pas les autotests, les autodéclarations de tests positifs ou négatifs lancés par le gouvernement du Québec ce matin, un peu en catimini sur québec.ca, endroit où on peut donc aller faire une autodéclaration. Dire qu'on a eu la COVID lors d'un test, un autotest, ou dire qu'on a eu un test négatif. Ça a été fait, on dit un lancement doux ce matin, on l'a pas annoncé pour s'assurer que le système fonctionne bien. On en a parlé rapidement pendant le point de presse. Alors, est-ce qu'une fois que le système sera rodé, on en fera davantage de promotion? Peut-être, parce que l'objectif étant que les gens se rendent sur le site pour indiquer le statut de leur dernier test, qu'il soit positif ou négatif.
Là, quand on parle de test, on parle pas... Si vous avez fait un PCR, là, lui, il a été compilé par le gouvernement quand ils l'ont analysé. Si on parle des tests, des autotests, des tests rapides faits à la maison... Vous êtes... Et moi, je l'ai fait. C'était mon cas. Puis pendant la conférence de presse, là, quand il l'a annoncé, j'ai dit, ah oui, puis j'ai fait... c'était très rapide. J'ai fait autotest, autodéclaration. Puis je suis tombé dessus tout de suite. Puis écoute, c'est une minute et demie. Là. C'est vraiment rapide.
Tu demandes quelques informations, test positif ou négatif.
En fait, la seule affaire, faut être ton numéro d'assurance maladie. Soit dans la tête ou la carte pas loin de toi. Si t'as ça en main... C'est une minute et demie, puis tout est fait. Là. C'est vraiment simple, puis ça vaut la peine de le faire. Là.
Et donc, l'objectif étant de compenser un peu pour ce vide là, de données du fait qu'on ne teste plus PCR la majorité de la population. Alors, en ayant comme ça des gens qui iront s'auto-déclarer, on peut avoir un petit portrait très limité quand même. faut dire, parce que c'est loin de tout le monde qui ira entrer tout ça, mais ça permettra de voir peut-être une éclosion, un endroit, voir le taux d'autodéclaration monter dans un endroit ou l'autre, ou baisser. Alors, ça permettra d'augmenter un peu la qualité des données. D'ailleurs, on expliquait quand même que pour les tests PCR, qui sont moins en demande, là, vu le fait que les cas baissent, on pourrait élargir à d'autres catégories qui pourraient accéder aux tests PCR. Par contre, Christian Dubé semblait pas être prêt à relancer les tests PCR pour tous. Il faut s'habituer à faire les autotests à la maison, parce que ce sera à l'avenir pas mal ça.
Bon, moi, je pense aussi qu'ils ont, dans la vraie vie, là, déplacé. Tu sais, on donne 85, 90, 100 000 doses de vaccins par jour. Moi, je pense qu'ils ont déplacé certaines ressources à l'accueil puis tout ça, des centres de tests où on a, il y a un bout, là, on testait, je sais plus combien, on faisait des dizaines de milliers de tests par jour. Et ils ont déplacé ces gens-là vers les centres de vaccination. En se disant, c'est plus prioritaire à ce moment-ci de donner des troisièmes doses en masse, puis des premières, des deuxièmes, donner des troisièmes doses en masse, que de tester tout le monde, incluant des gens qui sont pas vraiment malades. Ben,
mais on l'a plus, là.
Non, mais la perte, c'est qu'on n'a plus le portrait. On sait plus, on navigue dans le brouillard, on sait plus combien il y a de cas au Québec, alors que, il y a pas, moi, j'avais l'impression que c'est une stratégie que bien des pays allaient emboîter le pas, mais non. Tu regardes en France, en Angleterre, au Royaume-Uni, aux États-Unis, partout, ils ont des nombres de cas gigantesques, mais ils l'ont. Ils continuent à tester les gens pour avoir un nombre total de cas, un portrait.
Un mot sur la vaccination, puisque Pfizer BioNTech aujourd'hui dévoilait le lancement de la campagne de recrutement pour un essai clinique qui vise à tester le premier vaccin contre Omicron, donc un vaccin contre la COVID, le vaccin Pfizer BioNTech, mais modifié pour s'attaquer et adapter à Omicron. Alors, ça vise des adultes de plus de 55 ans, donc 18 à 55 ans, 1420 personnes seront sélectionnées pour faire partie de cette phase d'essai-là. On sait que le laboratoire américain Pfizer avait annoncé depuis plus d'un an vouloir un système pour rapidement pouvoir adapter le vaccin aux différents variants. On sait qu'avec l'ARN messager, c'est une des qualités, c'est qu'on peut rapidement changer la recette et la modifier pour s'adapter à un variant. Donc,
ça a été rapide. Dans ce cas-ci, ça a pris moins de 2 mois. Là. Écoute, ils ont entendu parler d'Omicron 29-30 novembre. Ils ont dit on se met tout de suite sur le dossier. Puis, il me semble qu'il avait parlé de 60 jours, là, 2 mois. Puis là, il est juste quelques jours près, mais il est dans de son 2 mois. Là.
Oui, et là, ce qu'on veut voir, c'est la réponse immunitaire des patients et le fait qu'il est sans danger. On pourra déclencher ça le plus rapidement possible. L'objectif étant d'avoir ce vaccin-là disponible dans les prochains mois. D'ailleurs, on cible à la fois des gens qui ont eu 3 doses de vaccin, donc qui ont eu leur dose de rappel, des gens qui n'ont pas eu, qui ont eu 2 doses, et des gens qui n'ont pas eu de vaccin du tout. Et là, Mario, je me questionne quand même sur à quelle porte on va aller cogner pour trouver des gens qui voulaient rien savoir du vaccin.
Peut-être aller dans des pays moins vaccinés, là. Parce que si tu viens au Canada où 90% des gens sont vaccinés, puis tu cherches des gens non vaccinés qui déjà ont dit toutes les méchancetés sur le vaccin, puis là, tu devrais voudrais être ce cobaye dans un
vaccin expérimental.
Ouais, tu fasses partie des 1400 premiers qui vont le recevoir.
C'est pas sûr. Mais c'est sûr qu'il y a des gens dans le monde qui, effectivement, à défaut d'avoir autre chose, seraient les premiers à souhaiter celui-là.
Dans des pays à faible taux de vaccination, c'est possible, à mon avis.
Tout savoir en 24 minutes.
Parlons de santé mentale maintenant. C'est que Lionel Carman en avait beaucoup sur sa table cette semaine, parlant de cette mission pour aller chercher justement les non-vaccinés, les intéressés à recevoir une première dose. Mais aussi la question de la santé mentale au Québec qui en inquiète plusieurs. On avait vu un bond là, des demandes de consultation impressionnantes depuis le début de la pandémie, là, de 30 à 40%. Et le ministre s'était engagé à éliminer la liste d'attente qui est de près de 20 000 personnes. Et malheureusement, rapidement, on s'est rendu compte que ça allait être impossible, tout simplement parce qu'on manque de personnel, particulièrement là, psychiatres et psychologues. De sorte que Lionel Carman, aujourd'hui, présentait son nouveau plan d'action, 1 milliard sur 5 ans, 360 millions en nouveaux investissements pour faciliter l'accès aux soins de santé. Ce qu'on veut, c'est l'interdisciplinarité. Alors, pouvoir envoyer des gens, utiliser tous les acteurs du système. Alors, pouvoir envoyer des gens chez des infirmières spécialisées, par exemple, des ergothérapeutes, des psychoéducateurs, et augmenter le nombre de psychiatres et psychologues. Là, on veut 1000 postes à temps plein de combler dans le réseau d'ici 2026. C'est pas fait, par contre. On sait qu'on a beau investir tout l'argent du monde, former, ça prend du temps, ça prend des candidats qui sont intéressés aussi. Alors, ce sera un autre grand chantier du gouvernement dans les prochaines années, avec cette pénurie quand même importante dans le réseau public.
C'est une initiative qu'on associe beaucoup beaucoup là, à la pandémie, les gens vont mal, etc. Mais il reste que depuis quelques années, avant la pandémie, je veux dire, la plupart des experts, des grands observateurs de la société disaient les problèmes de santé mentale, c'est le mal du siècle. Tu sais, c'est vraiment, c'est le problème d'aujourd'hui, de la vie qui va vite, de paquets de situations. Donc, j'ai l'impression qu'un peu partout, les gouvernements vont devoir, à l'intérieur de leur offre de soins de santé de toutes sortes, la santé mentale va devoir y être intégrée. Donc, oui, disons que le contexte présent se prête à parler de problèmes de santé mentale. Mais, je veux dire, on parlait de ça...
C'est un problème de fond. L'anxiété chez les jeunes...
On parlait de ça tous les jours avant la pandémie. Là. C'est pas quelque chose...
Bon, parlons du GoFundMe, en fait, de ce convoi de camionneurs qui se dirige tranquillement vers Ottawa, qui va converger à Ottawa le 29 janvier prochain pour dénoncer la vaccination obligatoire chez les camionneurs qui se dirigent aux États-Unis. Il est nommé le convoi pour la liberté. On sait que dans les dernières semaines, Tamara Litch, qui avait lancé un GoFundMe, là, une page de financement, avait obtenu quand même, écoute, ça a généré beaucoup d'intérêt, plus de 4,5 millions de dollars. Pour appuyer les camionneurs non vaccinés. Il faut dire que le texte, d'ailleurs, sur la page GoFundMe, dénonce un gouvernement tyrannique qui oppresse les gens. Donc, on dit c'est ce qui semble arriver chez nous. L'objectif de cet argent-là, parce que même au départ, okay, ça coûte à quel point faire une manifestation, ça coûte 4 millions de dollars, c'est pour payer, entre autres, les coûts du carburant là, pour pouvoir se diriger vers Ottawa pour tous ces camions-là. Exactement. Dans certains cas, pas dans tous les cas, mais aider... au coût de nourriture et de logement. Et là, dans les dernières heures, on apprenait que GoFundMe, alors le site Internet carrément, avait décidé de geler les fonds de cette campagne-là.
Mais t'as-tu pensé, Vincent? Parce que souvent, les GoFundMe, là, c'est pour un enfant malade, c'est pour aider une famille, c'est des 1 000, je sais pas, mais tu ramasses 17 000, 8 000, puis ça va à la famille.
Il y a un équipement ou quelque chose.
Ouais, puis la famille qui reçoit les dons, c'est elle-même qui a le besoin. Fait que tu dis, à la limite, s'ils en ont 2 000 de trop, ben... tant mieux pour eux autres, ils ont tellement de besoins. Mais là, t'es plus là-dedans, là. 4 millions, Vincent, t'es dans les ligues, là. Ça prend un conseil d'administration. Je veux dire, mettons, je te fais une caricature, mais la personne qui l'administre, elle dit, bon, ben moi, je vais payer les auteurs. Ben moi, c'est bien de l'ouvrage d'administrer tout ça, je me prends 300 000, là. Non, mais tu sais, le montant...
Ça, c'est très facile. Tu peux dire à une hôtellerie, je te book 100 chambres, mais tu me charges le double, puis tu me le donnes, c'est sûr que ça ouvre la porte à...
Il n'y a pas de conseil d'administration, il n'y a pas de règles. Qu'est-ce que tu payes comme dépense? Qu'est-ce que tu payes pas? Qu'est-ce que tu fournis?
Ce qu'on a indiqué sur la page GoFundMe, c'est que les responsables chez GoFundMe allaient payer eux-mêmes un fournisseur de carburant pour la question du carburant, alors que ça allait pas être donné plein de petits montants à tous les camionneurs, ça allait être centralisé à un endroit plus surveillé. On dit que le surplus sera donné à une fondation crédible qui donne de l'argent et des soins aux vétérans. Alors, on dit que cet extra-là ira à un bon endroit. Par contre, tu as raison, Mario, que quand même certains dans le monde du camionnage aussi même dénonçaient ça en disant aux camionneurs, arrêtez de donner de l'argent à cette fondation-là.
Mais c'est plus profond.
On ne sait pas exactement où ça va se diriger.
C'est qu'il y a cette idée qui circule là, dans les médias sociaux là, très radicaux, anti-mesures, genre Maxime Bernier un peu, là, que les camionneurs sont devenus le symbole, sont porteurs de quelque chose de plus grand que la simple cause que t'es camionneur, tu veux pas te faire vacciner. Qui sont, écoute, ce matin, Audrey Gagnon, journaliste à TVA Nouvelles, était dans la cour d'un grand magasin, là, puis elle parlait des mesures que Legault allait annoncer après-midi, puis tout ça. Et il y a une fille qui, plutôt que de répondre sur ouverture des restaurants, elle a dit, nous, là, tout notre espoir est fondé sur les camionneurs qui vont sauver la liberté au Canada, puis tout ça. Ben, tout notre espoir est fondé. Tu dis, OK, tout notre espoir de quoi? Parce qu'elle est dans l'idée qu'il y a une oppression, puis qu'on vit plus en démocratie, puis...
Surtout que la mesure, elle est déjà en place depuis le 15 janvier. Plusieurs disaient que la manifestation aurait peut-être dû avoir lieu avant.
Imposée par un gouvernement, imposée dans une dictature, mais imposée par un gouvernement qui vient d'être élu majoritaire il y a 3 mois à peine, 4 mois à peine, le gouvernement Trudeau.
Tout comme aux États-Unis.
Qui vient d'être élu l'année passée.
Les chaînes d'approvisionnement, ce qui était une inquiétude, semble tenir assez bien. Il faut dire que le taux, on dit les camionneurs, la grande majorité, le taux de vaccination des camionneurs est très élevé. La majorité des compagnies ont tout simplement réorienté leurs conducteurs non vaccinés vers des routes au Canada qui sont nombreuses. Il y a de la demande aussi de toute façon. Alors en général, ça se passe plutôt bien. Le réseau qui semblait tenir le coup.
Mais est-ce qu'ils vont faire, la question, c'est au-delà de faire une grosse manifestation sur la colline à Ottawa, est-ce qu'ils vont gâcher la vie vendredi matin, exemple de toute la population d'Ottawa, ici au Québec, ils sont quand même censés aller vers les postes frontières, après ça se déplacer vers en route vers Ottawa, passer par la 40 à Vaudreuil, est-ce qu'ils pourraient en chemin dans le Grand Montréal bloquer des ponts, ralentir des autoroutes, etc., histoire de se faire des amis, agrandir leurs appuis dans le public?
Mais surtout que leur but, c'est de protéger la chaîne d'approvisionnement, Mario, mais en bloquant le trafic à la grandeur du pays, ce n'est pas vraiment le cas, non. Parlons des grands projets de transport au Québec, parce que deux de ces projets voient un peu de changement aujourd'hui, en commençant peut-être par le REM de l'Est, où aujourd'hui le consortium CDPQ Saint-Intra, Infra, qui a annoncé un changement de tracé. On sait que c'est un gros projet qui avait été annoncé avec beaucoup d'excitation, mais qui amène avec lui beaucoup de doutes dans la population.
C'est le fait que ce soit extérieur, suspendu un bout, que ça gâche le paysage.
Si massif.
Ouais, il y avait un long bout le long de la rue Sherbrooke qui inquiétait. Là, on a changé le tracé.
Ouais, on a changé le tracé. Il y avait des pressions contre un bout là du tracé qui aurait eu, selon plusieurs, un problème au niveau de l'intégration urbaine. De sorte qu'on a on a sécurisé en fait auprès du CN une option d'achat d'un segment de l'entreprise du ferroviaire au cœur de Mercier-Est, et ça permettra d'éviter un passage sur la terre commerciale de Sherbrooke-Est qui posait problème. Donc, on a acheté carrément un bout qui appartenait au CN pour pouvoir éviter ce secteur-là. Alors, c'est une nouvelle entente de tracé qui a été conclue dans les dernières semaines et qui permettrait de faire plaisir.
J'ai vu des gens satisfaits. Je sais pas si ça satisfait l'ensemble de l'Est de Montréal, mais j'ai vu des messages positifs, là.
Sûr que là, tu touches à une zone du CN qui est qui pose moins problème visiblement. Ça touche 4 kilomètres du tracé qui sera déplacé. Alors, on sait qu'il y a d'autres partie là où il y a des critiques, entre autres la branche là, qui longe le fleuve jusqu'à Pointe-aux-Trembles, alors où il y a des inquiétudes sur justement là, la dégradation de l'esthétisme de la ville et d'autres problèmes. Alors on verra, mais c'est un changement quand même majeur à
annoncer aujourd'hui. Tout le monde veut du transport en commun, il faut le passer quelque part. Là.
Oui.
Ça, c'est le problème.
Tu as tout à fait raison. Faut maximiser quand même ces projets-là. Oui, comme à Québec, avec le projet de tramway, où aujourd'hui, le bureau de projet a confirmé, a fait un peu le point sur l'état des lieux dans ce projet-là, confirmant l'augmentation des coûts, là, de plus de 600 millions qui est anticipé. On sait que la pénurie de main-d'œuvre, la pandémie, l'inflation, tout ça est venu coûter très cher au projet, qui est rendu donc maintenant à presque 4 milliards de dollars. Bruno Marchand avait promis mettre la main un peu dans ce projet-là, changer quelques points. Finalement, peu de changements seront possibles, au dire de Bruno Marchand.
T'es-tu surpris?
Non. Mais on va tenter de réduire la facture de 70 millions. Donc, les coûts supplémentaires anticipés de 600 millions, on voudrait les réduire un peu, au dire de Bruno Marchand, parce qu'entre autres, il y avait la question des fils aériens qu'on voulait peut-être mettre dans le sol. Finalement, on oublie ça. On dit, l'hiver, ça fonctionne pas bien, les câbles dans le sol.
C'est différent d'être candidat à la mairie puis être maire.
Oui, t'as raison. Il y a la question des piles embarquées, par contre. Est-ce qu'on pourrait avoir des tramways électriques, mais qui fonctionnent sur leur propre batterie? Alors, on dit qu'il y a...
Pas de fil.
Pas de fil. Ce qui serait intéressant, mais on dit que cette technologie-là est nouvelle, pas encore éprouvée. Mais on dit que si un soumissionnaire est capable de nous démontrer que ça va bien.
Tu veux partir avec le tramway, puis là, il est sur la charge, là. Il va partir dans une heure.
Oui, mais Mario, tu peux avoir une pile qui s'enlève et qui se remplace rapidement. C'est sûr que c'est capable d'éliminer toutes les fils du tout le tramway.
Ça change le portrait.
Donc là, est-ce que t'attends cette technologie-là? Alors on dit par contre, du côté du bureau, dit le grand élément qui a changé, c'est le désir d'aller à la rencontre des citoyens et de prendre le temps de bien expliquer les choses, alors que malheureusement, le taux d'approbation du projet dégringole un peu à Québec, où on voit un taux de favorable à peu près de 40%, de 41% selon le dernier sondage, ce qui n'ébranle pas Dominique Anglade, dont c'est la chef libérale qui a approuvé, qui est pour le projet, l'est toujours. L'idée n'est pas de gérer par sondage, mais de gérer pour l'avenir, de penser à l'avenir. Alors, appuie toujours là-dessus le gouvernement Legault qui veut aller de l'avant avec le projet. projet, même avec le faible taux d'encouragement en ce moment des gens de Québec.
Mais en fait, les deux projets, Québec a deux projets gigantesques, le tunnel et le tramway. Dans les deux cas, il y a de l'incertitude sur la réalisation. Dans les deux cas, c'est plus en baisse qu'en hausse dans l'opinion publique. Là. Rentrer dans le projet, préciser le projet, ça a plus tendance à fragiliser, inquiéter l'opinion publique qu'à les encourager. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.